Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 13 juillet, c'est un mercredi. Et vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Mbok. C'est le bulletin désormais que vous connaissez, bulletin politique, mais pas seulement. Et puis, je peux dire pas seulement parce que. Enfin, dire pas seulement, c'est pas le mot parce que. Tout est politique en fait, tout est politique, quel que soit le bout par lequel vous prenez un problème, vous finissez par rencontrer le politique. Et donc parfois, je n'ai pas vraiment envie de faire une émission frontalement politique, mais le politique me rattrape toujours. J'étais partie sur l'idée de faire une émission sur le sous-développement. Et partant du sous-développement, Je me rends compte que c'est la question du pouvoir, en fait. J'ai promis ici de parler du pouvoir comme... En fait, je voulais l'aborder sur un plan philosophique, mais ça allait faire un peu lourd. Enfin, lourd, ça allait faire pas tellement billet de radio, à moins de faire une émission 100% culturelle ou éducative. Et je réfléchissais à la question du sous-développement, sans vraiment penser à la question du pouvoir, mais qui flotte toujours, hein, parce que le sous-développement, on le pense souvent comme étant une fatalité pour l'Afrique, notoirement, et ceux qui sont, qu'on appelle les damnés de la Terre, on se dit, bon, ils vont rester sous-développés parce que c'est associé à une forme d'animalité, vous voyez. Ou de sous-humanité ou d'humanité de seconde zone, au sens où la réflexion ne va pas très loin et donc finalement il faut laisser ces gens-là à leur état primitif ou de débrouillardise quand on est gentil. Et finalement non, parce que quand vous êtes ici, vu de l'étranger, donc vu de l'Europe, de l'Occident évidemment, lorsqu'on y est, on fait des études, ça paraît vraiment évident que le sous-développement est une fatalité ou qu'on peut, comme ça, à coup d'argent, le traiter. Et on oublie, ou plutôt on ne voit pas, parce qu'on n'est pas confronté au réel, on ne voit pas ce qui traverse la logique du sous-développement. C'est que dans le sous-développement, il y a déjà une première chose, hein, c'est que c'est une condition. Une condition qui est voulue et qui est encouragée par le conformisme et le et probablement la connivence hein, qui veut que il y a des États, il y aura toujours des États sous-développés parce que dans le sous-développement il y a la question d'abord de la condition inférieure dont on a parlé. C'est une condition, le sous-développement. Et pour que ça marche, cette condition n'est pas vraiment devenue un statut, mais elle est devenue un état de fait. Bon, il y aura des pays sous-développés pendant un bon moment, parce que ces pays-là sont habités par des populations qui sont inférieures. L'Afrique, c'est évident, c'est le territoire où il y a eu la traite des Noirs, l'esclavage, tout ce que vous connaissez avec son histoire. Elle ne peut que subir cela. Et d'ailleurs, ce qui est étrange. Et dans le sous-développement, ça suppose aussi que celui qui a classé les pays en sous-développement et en sous-développé et en développé présente les pays développés comme étant des pays experts. Donc, ils ont une expertise qui n'existe pas forcément de l'autre côté. Cette expertise, on la voit dans l'offre des biens publics, des services publics, dans l'offre sociale, dans l'offre de la mortalité infantile et probablement de la femme aussi qui accouche, dans l'offre des infrastructures, bien sûr, les routes, l'électricité, l'eau, le logement, ce sont de qualité, et dans l'offre, comment on va dire, de l'éducation, voilà, une éducation au top, où on ne fraude pas. Bon, vous allez voir, la réalité va correspondre point par point à cela, parce que déjà, si on prend l'éducation, ici en Afrique, au Cameroun, vous avez des thésards qui se sont fait écrire leur thèse, et donc ça remet en cause tout. Comment on va appeler c'est pas une plateforme, mais l'aréopage des docteurs, la prolifération des docteurs ici au Cameroun, c'est exceptionnel. Pendant ce temps-là, le pays, normalement, à son stade de développement, celui-ci, enfin de sous-développement vers le développement, aurait besoin de plus de techniciens et d'ingénieurs que de docteurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça se manifeste aussi, l'expertise par la qualité de l'alimentation. Ça se manifeste, enfin, on va dire, l'expertise, c'est du qualitatif. Et le qualitatif définit le développement, la société développée. Alors, dans la gestion des affaires de la société aussi, c'est ce qu'on disait de la cité plutôt. On voit très bien ce qui se passe aujourd'hui en France, ou quand même, je ne sais pas comment on dit, la NUPES ou la NUP, la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Union Populaire, Économique et Sociale, a quand même, je veux dire, anime l'Assemblée nationale qui reprend un peu de la vie, parce qu'avant c'était juste une caisse d'enregistrement. Et là, on a des débats, on a une motion de censure qui n'est pas passée contre la Première ministre Elisabeth Borne, dont les premières mesures d'ailleurs devraient contenter la NUPES, parce que c'est un peu comme elle va brouter sur leur terre, ils auront du mal, ils auront du mal, parce que si elle se met à faire du social à la place de la NUPES, ça va être terrible. C'est ce qu'elle a commencé à faire. Bon, honneur aux femmes, enfin aux femmes en politique. On verra si ça va durer, hein, ou si c'est pas seulement comme ça pour un départ, un bon départ, pour faire bien. Bon, dans la gestion des affaires à la cité, on voit très bien que les En Marche, là, les LRM, vont gouverner avec les Républicains. Donc, ça va leur sauver la mise. Et ça conforte ce que Éric Zemmour disait, que l'électeur est probablement très illettré politiquement parlant, parce qu'il fallait donner à la NUPES une vraie majorité de poids pour qu'elle pèse dans les choix populaire, et non une majorité plutôt, enfin une majorité ou une minorité relative comme le pouvoir. Et donc finalement, peut-être que, bon, on verra, on ne parle pas ici de la France, c'est pas tellement le but, quoique au Mali, on a eu un énième coup d'État, troisième je crois, du colonel Goïta, parce qu'il a viré la France du Mali, et la France n'accepte pas, et méthode de pouvoir je veux dire, d'un pays développé sur un territoire sous-développé, mais c'est le coup d'État. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché, mais on verra bien, on verra bien. Bon, l'expertise des pays développés contre la non-expertise, expertise des pays sous-développés, voilà ce qui découpe vraiment le monde aujourd'hui. On ne peut plus dire nord-sud, ça n'a plus de sens, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le sud qui étaient classés avant dans le sud qui ne le sont plus. C'est une question de pouvoir, question de pouvoir dans ce sens que c'est voulu et en même temps c'est subi. Alors, c'est ça qui est terrible pour l'Afrique. C'est voulu par les pays occidentaux. Il faut que les pays développés restent inférieurs. Mais c'est subi aussi parce que les dirigeants même des pays sous-développés sont en osmose, en accord, en harmonie avec cette vision du monde et même de la société, qui fait qu'il y aura toujours ceux qui seront faibles et puis ceux qui seront. En fait, une lutte des classes hein, qui est larvée comme ça, où ceux qui sont en haut ne voudront jamais partager. Ou plutôt partageons au rabais, ils donneront des miettes, mais il faudra toujours faire tout pour qu'il y ait un gap. Alors, le problème de l'Afrique là-dessus, c'est qu'il subit donc cette double attaque et ça, les ravages sont terribles. Les ravages sont terribles. Bon, c'est vrai que l'Afrique est sous-développée, l'Occident est développé, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le sous-développement? Concrètement, la Banque mondiale, par exemple, a accordé un prêt au Cameroun pour que la construction de 10 000 logements sociaux. Évidemment, c'était des annonces, parce que par la suite, on voit très bien que aujourd'hui, la banque. Déjà, le logement, j'en ai parlé ici, le logement au Cameroun, il a été confié au privé. Donc, il est difficile maintenant à l'État de reprendre la main. Le logement social est dit social, mais c'est vraiment. Tout est. Je ne sais plus comment on appelle ça, immobilière, là. J'ai un nom, spéculation immobilière, et ça passe par le foncier, mais toute une politique de construction de logements qu'on va mettre à la disposition des usagers afin qu'ils louent ces logements-là. Et l'État ne peut plus reprendre facilement les choses parce de l'autre côté, parce que ça voudra dire que le privé va être très en difficulté, vous voyez. Et les agents immobiliers à qui on avait confié les acteurs cette tâche vont se retrouver dans une situation de logement inoccupé. D'abord, c'est trop cher par rapport au coût de la vie. Et logement social veut dire des logements qui sont pas gelés, mais enfin des loyers qui sont pas gelés, mais qui vont être revus vraiment à la baisse par rapport à ce qui est offert aujourd'hui. Vous voyez, on est dans une quadrature du cercle. Du coup, l'État n'a pas eu les mains libres pour construire ces logements parce qu'il tiraillait de l'intérieur et par ses propres logiques prédatrices. Et finalement, l'État préfère payer 2,5 milliards de francs CFA d'amende, enfin préfère payer, mais la Banque mondiale fait payer pour non-consommation de crédit. C'est aussi bien parce qu'on met à la disposition des moyens pour développer le pays. Vous savez, le logement social en France, c'est quand même quelque chose. Ça a sauvé tout un pan du peuple. Alors ici, où les gens sont vraiment. Je ne sais plus s'ils sont pauvres, hein, mais on va le dire comme ça, parce qu'ils sont sous-développés. On ne fait pas un logement social, ça n'existe pas. Bon, on peut croire que on va rapporter ça à la gouvernance, médiocrité et tout, mais c'est plus que cela, parce que c'est voulu, c'est réfléchi et c'est motivé. Bernie Sanders. Je vais procéder là par une comparaison vraiment par l'absurde, a écrit un mail ce jour-ci, probablement, qui s'intitule La lutte continue. On a terminé le dernier flash par cela. Et lui, il dénonce, et son créneau depuis, les grosses, la grande disparité entre les plus riches et les plus pauvres, ce qui ne peut pas s'expliquer par les plus pauvres, mais le reste de la population. Il dénonce cette santé qui est réservée à certains et pas pour tous. Il dénonce ces gens qui s'enrichissent sur le dos des autres par justement en produisant des médicaments ou des vaccins. On a vu ce qui s'est passé par le Covid. Hein. Au lendemain, certains sont devenus très très riches, surtout les fabricants de vaccins. On a vu, ils dénoncent tout ce qui est création des poches de pauvreté et des sans-abri. Là, ils parlent de l'Amérique. Hein. Monsieur Bernie Sanders, c'est un sénateur, pour ceux qui sont américains, qui a été candidat aux élections présidentielles et en 2016 et pour les démocrates. Et il est toujours sénateur aujourd'hui, il est du Vermont, et il dénonce comme ça tout ce qui est achat corruption démocratique, dans le sens où il ne faut pas acheter les élections, parce que c'est ça qui fait en sorte que tout processus électoral corrompu aboutit à un régime autoritaire et tyrannique qui, après, fait fi du peuple, s'en fout. Et ça a des résonances. Il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Le système éducatif, où certains peuvent y accéder aux États-Unis, selon que tu as les moyens ou pas de payer de prendre ton crédit. Bon, il y a beaucoup d'obstacles éliminatoires qui sont mis sur la place publique. Et en fait, au-delà de cette énumération, qui d'ailleurs répond aussi en écho à un article de monsieur, j'ai oublié le nom du journaliste là, je l'ai marqué quelque part, de Washington Times, qui parle, l'article s'intitule Mr. Biden, Wealthy and Clueless White House, c'est-à-dire sa maison blanche très riche, où le personnel est très riche et qui est sans repère. Bon, parce que là-bas, à la maison blanche aujourd'hui, avec monsieur Biden, c'est. Le personnel, hein, les pontes du système sont des gens qui ont bénéficié de ce qu'on appelle le revolving door, c'est-à-dire on passe au poste très rémunéré de l'administration fédérale pour les cabinets d'avocats juridiques et éventuellement les cabinets de conseils consultants, et on revient. Ces allers-retours sont très, 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 très profitables, rémunérateurs, parce que c'est des millions d'argent qu'on engrange. Et par la suite, une fois qu'on a fait cela toute sa vie, il y a Monsieur Blinken, qui était secrétaire d'État, il y a Jane, il y a Madame Pas Psa, je veux pas, le nom me dépasse pas. Psaki ou Psaki, qui était secrétaire à la presse. Il y a Janet Yellen, qui a dirigé, qui est au Trésor. Il y a, j'en oublie, hein, ils sont nombreux, là, à la Maison Blanche. Et qui, après tous ces passages, il suffit de savoir comment manipuler le système, comment le système fonctionne et comment vous pouvez le contourner, le tordre, et pour en faire vraiment des profits qui dépassent Wall Street, ce que vous pourriez faire à Wall Street, hein, pour vous dire. Ce journaliste du Washington Times, oh, pourquoi j'ai mis son nom quelque part, et puis voilà, je vous parle, je ne retrouve plus son nom. Oui, Roman Scarborough. Si vous cherchez l'article sur le net, vous verrez le détail. J'ai pas pris les noms parce que c'est pas le but, c'est pas le but. Mais c'est comme ça que ça marche, et ça marche ainsi probablement depuis la nuit des temps. Mais sauf que maintenant c'est très visible, parce que ce que monsieur, ah, bon, ce journaliste, il termine, finissons-en avec son article, il termine en disant justement les dérives de cette oligarchie très puissante qui s'est constituée en clan et qui autorise des politiques tout à fait absurdes. Par exemple, qu'au lieu de finir la guerre avec la Russie, on préfère que les prix montent à la pompe de manière exorbitante, et toutes les raréfactions que vous avez vues, on préfère, et on a confié, Monsieur Biden a confié la gestion des flux migratoires venant du Mexique au cartel de la drogue, et ce sont eux qui font la pluie, le beau temps là-bas sur la frontière. C'est tout à fait sordide, et personne ne peut vraiment s'y opposer, parce que le swamp, le marais, comme l'a qualifié Monsieur Trump, le président Trump, de Washington, est tel que ben, on couvre les uns les autres, et se couvrant les uns les autres, ça ouvre la voie à tous les enrichissements illicites, mais qui sont en fait, il y avait ce qu'on appelait les conflits d'intérêts ou des incompatibilités. Le revolving door fait sauter tout ce qui est conflit d'intérêts et tout ce qui est incompatibilité d'emploi, et ça se passe, c'est le clan. Rapporté en Afrique, alors c'est curieux, parce que moi je veux parler du sous-développement en Afrique, et M. Sanders envoie un mail qui parle vraiment du sous-développement aussi en Occident, mais ça paraît paradoxal, sauf que ça ne l'est pas. Ça n'est pas lorsqu'on rapporte les choses à la logique du pouvoir, lorsqu'on rapporte les choses à la logique, à une logique nietzschéenne, lorsqu'on rapporte les choses au philosophe Arthur Schopenhauer qui parlait du monde comme volonté et comme représentation. Bien sûr, je pourrais citer la phrase d'Harry Potter, qu'on entend dans un épisode d'Harry Potter, qui dit que le bien et le mal n'existent pas, seul existe. Le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour aller le chercher. Donc, il faut aller chercher le pouvoir. C'est ce que la NUPES a fait, a démontré. Mais le problème, ou plutôt le hic, ou le truc que ceux qui détiennent le pouvoir ont et savent, le secret de la domination, c'est de faire en sorte que le peuple soit toujours affaibli par ces salaires que M. Sanders appelle des salaires. De misère, mais c'est plus que de misère, et des salaires qui vous maintiennent dans la faim, la starvation, je ne sais pas comment, vous mourrez de faim, voilà. Des salaires qui vous empêchent même d'être libre, parce qu'une fois que vous êtes tenu et tiraillé par le manque d'argent, vous ne pouvez plus aller adhérer à un syndicat, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire, c'est votre liberté qui est totalement amputée. Et donc, les riches ou les industriels ou autres ont intérêt à ce que y ait à maintenir une classe des gens indigents, pratiquement toute proportion gardée. Et le pouvoir s'exerce ainsi. Il ne peut pas s'exercer si il n'y a pas un niveau inférieur. Voyez, pour que l'individu qui est au-dessus se sente fort, se sente vraiment en détention totale, en maîtrise totale de tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on contrôle les gens et on fait d'eux un peu ce qu'on veut, les médias aidant à cela. Alors, on va créer, d'abord au niveau de la volonté, ce monde à deux vitesses, obligé partout, qui fait que ben, il y aura donc ceux-là que vous ne pourrez jamais rattraper, qui s'envolent, et puis qui sont des tricheurs en fait, mais tricheurs institutionnels. Et le peuple accepte cela parce qu'il les chasserait, mais rien. Et ensuite, en bas, en dessous, le peuple a intégré cette réalité-là parce que les médias vendent cela comme du succès. Success stories. Et le success stories, qui a une dimension psychologique, vient compliquer l'état d'infériorité de celui qui vivote ou qui vit comme il peut. Ça, c'est pour l'Occident, dont le pouvoir s'exerce de cette façon-là. Il y a d'un côté la ruse, bien sûr, ça c'est de Machiavel, toujours il faut ruser. Et de l'autre, la réalité brutale, c'est l'extrême cupidité de ceux qui dirigent le monde et qui ne se privent, enfin je vais dire, qui ne reculent devant rien, y compris la guerre, y compris les tueries, y compris la destruction. Vous voyez, l'Ukraine, elle va être complètement détruite, comme la Libye, elle va subir de grands dommages, comme la Syrie, comme l'Afghanistan. Comme vous voyez, c'est ça, on recule devant rien, ni devant la mort. Ni devant, on parle même plus d'humanité, d'humanisme, parce que la pitié, ça c'est, bon, l'État, bon, il n'y a pas, le pétrole est trop cher, enfin, l'essence est trop chère en station, je sais plus, Monsieur Biden a semblé dire, bon, on verra, il faut pas non plus trop en faire, sans évoquer une seule fois la responsabilité, sa responsabilité. Dans la guerre et dans cet OTAN qui veut s'élargir jusqu'à annexer toute la planète. Bon, à l'annexion, voilà, ça c'est encore un autre problème. On voit dans le qui travaille le sous-développement. L'annexion des territoires aujourd'hui, c'est plus comme l'Israël fait en Palestine. Ici au Cameroun, c'est carrément toutes les enseignes internationales qui reviennent, enfin françaises qui reviennent. But va être là. Carrefour a déjà 3 magasins. Feu Vert est là. D'autres sont annoncés. Ça va être la France bis. Ce sera même plus l'occupation, ça sera ni l'annexion. Ça s'est considéré parce qu'il y a un travail psychologique qui est fait là-dessus et Carrefour a eu l'intelligence de dire qu'ils ont déjà 4 600 producteurs locaux qui vont pouvoir vendre leurs produits dans leurs étals. Bon, ok. Vous voyez, le marketing il vient compenser ou justifier l'injustifiable. L'injustifiable, je mets ça entre guillemets, mais en même temps, je ne le mets pas parce que, compte tenu du fait que derrière, c'est ce que je dis, c'est le pouvoir qui travaille, et ici le pouvoir économique sauvage qui fait que tôt ou tard, les producteurs locaux vont être étouffés. Mais peu importe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour les logements, qu'importe, parce que localement, les dirigeants sont avec eux dans cette même lutte aussi, parallèle, où il faut que le peuple soit toujours infériorisé, manque un peu de tout, pour que eux, ils finissent par apparaître comme les peuples élus. Je ne parle pas d'Israël, hein, je peuple élu vraiment ceux qui sont bénis des dieux. Voyez. Et donc l'argent, ça va. C'est vrai, l'argent est un bon reflet, ou plutôt un bon. Ça permet de magnifier une classe et de magnifier le pouvoir. Et après, le peuple est assommé pratiquement. Vous avez aujourd'hui au Cameroun des grandes marques d'hôtels qui sont annoncées. On annonce le Radisson Blu, le Hilton va créer, qui est déjà pas plein sur Yaoundé, qui est vide, parce que la population n'a pas. On construit des grandes infrastructures hôtelières de luxe, je ne sais pas pour qui. D'ailleurs, le Cameroun n'a pas de politique touristique. Alors, si on n'a pas de politique touristique, je ne vois pas pour qui sont destinés ces grands hôtels de luxe, mais qui poussent. Alors, soit c'est du blanchiment d'argent, c'est possible, soit c'est tout simplement ce qu'on essaie de dire, c'est-à-dire que le pouvoir doit se manifester par tout un ensemble de comment on va dire, peut-être pas d'équipement, mais de bâtiments, voilà, de palais qui imposent, voyez, au peuple. Alors, c'est aussi la même chose lorsqu'on importe les voitures, les gros 4x4, les gros cylindrés, c'est que ça impose. Et alors, lorsque le pouvoir impose comme ça ses attributs et les expose aux yeux du peuple, le peuple est complètement abasourdi. Et ça, si voulu, à la fois par les pays développés sur ce plan-là, sur l'exercice et la maîtrise du pouvoir et la volonté de puissance de Nietzsche, et si voulu aussi par leurs représentants locaux qui adoubent cette politique-là. Et donc, l'Afrique est-elle condamnée au sous-développement? Parce que je me souviens d'un livre qui disait, et si l'Afrique refusait le développement? Mais non, c'est pas l'Afrique. Oui, c'est les élites africaines, effectivement, refusent le développement de l'Afrique. Clairement. Mais il fallait donc préciser, parce que c'est pas sûr que ce soit le peuple, mais à un autre niveau, vous allez voir, le peuple, il est roublard parce qu'il s'est rendu compte. Comment je vais dire, il s'est résigné à son infériorité parce que devant, ici au Cameroun, c'est la logique, la même logique du revolving door ici qui se manifeste par le clan ethnique. Vous êtes du clan ethnique, vous allez être recruté à des postes hein, et aux grandes écoles et payer des sommes extraordinaires pour que dalle. Comme mission, comme service, en Europe encore peut-être, ou en Occident, mais alors ici, ça se voit tellement parce que c'est les Occidentaux qui reviennent, et les Asiatiques, et les Indiens, et les Chinois, et tout le monde qui revient pour faire du business ici, à la place, enfin pour faire du business, non, c'est pas vraiment du business, pour construire l'Afrique à la place des Africains, et C'est dommage parce que au niveau de l'efficacité politique, au niveau de la mémoire même, parce que ça suppose, hein, ça va de pair, un effacement total de la mémoire des peuples ici et de la tradition, tout ce qui est chefs locaux, machin, sont complètement à la ramasse. Mais je vais finir sur ce ton local. On arrive à un système où, par exemple, au Cameroun, tout Camerounais est potentiellement voleur, s'est transformé en voleur à l'image de ses dirigeants, parce que c'est la seule issue qui lui reste, mais c'est aussi, pas forcément cette seule issue, c'est aussi le fait que l'opportunisme aidant, bah, puisqu'on vole en haut, bah, nous aussi, chacun vraiment à son niveau ne pense qu'à voler son prochain. Parce que l'État, évidemment, il vole l'argent du peuple et il reste impuni. Et ça descend comme ça à tous les niveaux, jusque dans les villages. Et dans les villages, le lieu même, le haut lieu de visibilité du sous-développement, où il n'y a rien. Pas de route, pas de distribution d'eau. Bon, tout est vraiment au niveau animal, au stade animal primitif. Mais la principale activité, c'est de voler dans les champs des autres. La principale activité, c'est de la truanderie. On vous truande sur tout et sur rien, j'ai envie de dire. Et vous êtes étonné que ces gens que vous avez pris en pitié en disant, oh, mais c'est la communauté internationale qui leur tape dessus, oh, c'est leur gouvernement qui leur tape dessus, mais on arrive à une forme de malédiction générale, où puisque nous sommes dans le mal, hein, Bernie Sanders, dans son mail, il précise très bien l'extrême cupidité, c'est pas bien. Il précise tout ce qui est pas bien. C'est toute une liste. Ah, et nous avons adopté le mal comme conduite normale, mais il y a des conséquences à cela. C'est l'addiction à des choses, par exemple, où on voit que. L'homosexualité, par exemple, qui s'exprime comme un choix de son corps, vous voyez, ah oui, un choix personnel, la vie privée. Mais quand vous regardez au fond, vous allez voir qu'il est question de domination masculine et de disqualification de la femme, qui est un groupe qui peut concurrencer les hommes, et ça, c'est un problème. Parce que déjà, on enlève les hommes aux femmes, ils vont s'accoupler entre eux. Bon, évidemment, ça vous donne en mode absurde le lesbianisme et en mode devenu sociétal, beaucoup de femmes qui ne trouvent pas d'hommes, enfin qui ne trouvent pas d'hommes, qui préfèrent être seules, parce que être seule aussi, ça peut être un choix. Hein, et ça fait aussi des hommes des salauds, parce qu'ils se disent, de toute façon, une femme aujourd'hui, comme toujours, ça a été, elle s'est définie parce qu'elle est en couple. Si elle n'est pas en couple, ben, elle est un peu diminuée socialement, parce que s'il y a des invitations, les autres arrivent en couple, même si c'est d'un couple au forceps, mais c'est d'un couple, et vous arrivez toute seule, non, ça donne pas. Vous voyez? Donc, même cette homosexualité, elle est minée par la volonté de pouvoir, par la perversité de ceux qui dirigent, par leur machiavélisme. C'est encore une ruse, cette promotion de l'homosexualité. Donc ça se tient, ça se tient. Et ce canal privilégié pris, alors quand ce n'est pas les médias, c'est les stars, pour promouvoir cela, la chose. Et dans les pays sous-développés aujourd'hui, vous avez des artistes qui soutiennent cela. Ils sont, je ne sais pas jusqu'où, des artistes et des acteurs, les sportifs, je ne sais pas jusqu'où ils sont obligés de faire cela, jusqu'où comment on va dire, le travail de conditionnement psychologique va, c'est affolant, c'est affolant. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est vraiment une galerie, hein. Moi j'appelle ça, je sais plus comment l'appeler, parce que quelqu'un a parlé, celui du Washington Times, il y a une très belle expression en parlant du monde financier imaginaire qui se construit par ces grands du monde. Moi, enfin, l'insolence financière, hein, imaginaire, c'est fantastique, et en même temps c'est fantaisiste, c'est-à-dire que c'est vraiment irréel. Puisque ça ne se peut pas dans une société normalisée. Je vois en Afrique une malédiction qui probablement existe aussi déjà en Occident. C'est des riches qui ne s'empêchent plus de voler, qui sont condamnés à la kleptocratie de façon permanente, ils ne peuvent plus s'arrêter. C'est une malédiction aussi. Au milieu, vous avez toute une classe intermédiaire, on a appelé les influenceuses à un moment donné, mais qui allaient se prostituer. On a appelé on appelle les médias, tout ce que vous voulez, mais des gens vraiment très, 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 très soumis, en comparaison à ce qu'on appelle insoumis au système, mais qui ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont pris en otage par les subventions publiques. Mais eux aussi sont condamnés à voler beaucoup. Les fonctionnaires condamnés ici en Afrique à être corrompus. Ça descend à tous les niveaux, jusqu'aux villageois, jusqu'aux commerçants, je vais dire, pas aux oligarques, mais aux groupes économiques, commerciaux, bamiléké, des hommes bamilékés, qui se plaignent d'ostracisme ici, mais qui sont les rois du marché, de l'économie, enfin du commerce, on va dire comme ça. Ils peuvent décider la raréfaction de ci ou de cela, vous ne pourrez rien faire, c'est comme ça. Et c'est aussi les mêmes qui géraient l'immobilier dont on a parlé tout à l'heure, logements sociaux, mon œil. Tout le monde vole, tout le monde vole, tout le monde ne pense même d'abord qu'à voler et à tricher. Et à se prostituer, bien sûr, et à corrompre, et à être corrompu. Donc, c'est une malédiction généralisée qui s'abat comme ça dans les pays sous-développés où les gens sont, en dehors des grands dirigeants, en mode de survie. On est encore ici dans la survie, et cette survie, la face visible de cette, se matérialise par le vol. On doit voler, tricher, voler, tricher, voler, tricher. La CAN est arrivée au Cameroun, et je termine là-dessus. Pour ceux qui ne suivent pas le sport, il y a eu une CAN ici en début d'année. Lorsqu'elle arrivait, on s'est dit, oh là là, ça va être merveilleux. Mais c'est une catastrophe depuis bien avant son arrivée. Les prix ont explosé. Et on s'est dit, oh, ça va baisser après la CAN. Mais depuis après la CAN, ce sont donc ces réseaux commerciaux qui ont pris le relais, qui organisent les prix, qui organisent la rareté, qui organisent la cherté de la vie. L'État semble un peu pris au dépourvu, mais non. La Banque mondiale a envoyé de l'argent pour essayer d'aider à faire face à cette cherté de la vie. Mais comment l'État peut faire face à cette cherté de la vie dans un pays où il n'existe pas de politique sociale? Donc, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas, voyez, qui ne sont pas dans un cadre institutionnel bien défini. Ça a été la même chose lorsqu'on a distribué l'argent du Covid pour l'aide. Ils n'auront rien. Ce sont ceux qui payaient les impôts, qui étaient listés par les impôts, qui avaient droit à quelque chose et encore les autres non. Donc, quand la Banque mondiale envoie de l'argent pour aider à réduire la vie, est-ce que ce sont des subventions qu'on va accorder encore à ceux qui produisent, enfin, à ceux qui créent la cherté de la vie? Pour qu'ils la baissent, vous voyez, c'est coup double, hein. On gagne à tous les coups, c'est comme ça qu'ils deviennent riches, insolemment. Et est-ce que c'est un argent qui va être distribué de main en main, mais à qui? À qui? Aux parents qui sont peut-être listés à la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui donne quand même un peu d'allocation pour les agents, pour les familles. C'est ce qu'on m'a dit, et qui aide un peu pour le médical, c'est ce qu'on m'a dit, il faut voir. Est-ce que c'est les frais de santé qui vont devenir gratuits dans les hôpitaux? Je ne crois pas, ni les dispensaires, on paye tout ici. Est-ce que, comment aider dans ces conditions? On voit très bien, la Banque mondiale le sait très bien, que une fois qu'elle a décaissé l'argent, le contrôle de l'utilisation de cet argent n'est pas assuré tant que il n'y a pas ce travail qu'on peut appeler l'expertise ou l'ingénierie sociale qui est fait. Et pour que ce travail soit fait, ça va avec le développement urbain, l'ingénierie urbaine, et ça va aussi avec, on parlait, la décentralisation, bien sûr, devrait aider à ça pour avoir un fichier d'état civil. Vous voyez, c'est toute une logique qui est prise en tenaille. Par cette confiscation du pouvoir et logique du sous-développement. Le sous-développement est entretenu par les dirigeants africains. Il est subi par les populations, mais qui aussi, à leur tour, se pervertissent et se convertissent au système, chacun à son niveau. Ouh, ça c'est un sujet sur lequel on pourrait parler, 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 parce qu'il définit vraiment l'Afrique. Il faut faire l'entrée par le sous-développement pour voir que toutes les aides qu'on accorde à l'Afrique, au nom du peuple, ou pour aider le peuple, ne vont nulle part et ne peuvent aller nulle part tant que le préalable n'est pas fait. Il n'y a pas de cité organisée. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui peut être fait? C'est un peu le sauf qui peut. C'est un peu le sauf qui peut. Et moralement, c'est très destructeur à terme. Et bon, à moins qu'on se dise que le chaos aussi est une forme d'ordre, hein. Donc, et les plus, le monde est ouvert aux plus grands voleurs, en fait. Et celui, chacun l'a intégré ici parfaitement, se disant, plus je vais voler, plus je vais m'enrichir, et plus je vais obtenir du pouvoir sur les autres, parce que figurez-vous que, oh, je vais pas parler de ça, ça va énerver tout le monde. Bon, que dire de plus? Rien. Vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok pour Radio Silence. Et je vous dis, soyez Nietzschéen ou suivez Schopenhauer pour contrebalancer ce pouvoir nocif qui gère le monde. Parce que à terme, bien sûr, soit nous sommes fatalistes, on laisse tomber. Soit on essaye d'aider à ce que les choses changent, et c'est pas gagné. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.